Et on va rester dans la région avec vous, Dominique Bayard. Bonjour Dominique.
Bonjour Bruno.
L'économie iranienne, alors que le pays vote vendredi pour choisir son président, c'est un des enjeux majeurs de ce scrutin. L'accord sur le nucléaire a déçu. Il n'y a pas eu d'effet d'entraînement escompté par les investisseurs étrangers.
Oui, le brut iranien coule à nouveau à flot vers les marchés extérieurs. C'est le pilier de la croissance. C'était à peu près le seul bénéfice de cet accord sur le nucléaire. Le miracle escompté n'a pas eu lieu. Les Iraniens souffrent toujours autant du chômage et ils supportent en plus la fin des subventions à l'énergie. Les capitaux étrangers qui devaient déferler sur la République islamique pour créer les emplois dans le secteur privé, eh bien pour l'instant, ils ne forment qu'un petit ruisseau. Seulement 1 à 2 milliards de dollars ont été injectés depuis janvier 2016, date de l'entrée en vigueur de l'accord, alors que les besoins sont estimés à 50 milliards de dollars.
Et pourquoi, Dominique, pourquoi l'ouverture économique sur laquelle le président Rouhani, le président sortant, candidat à un second mandat, a beaucoup misé? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fonctionné?
Bien, la méfiance des deux côtés est immense et elle ralentit tout, selon un consultant français qui est coutumier des usages iraniens. Les sanctions ont été levées, mais les gardiens de la révolution sont toujours considérés comme des terroristes, étant donné qu'ils sont omniprésents dans l'économie, souvent masqués derrière des fondations, des sociétés écrans. Eh bien, un investisseur doit bien savoir où il met les pieds avant de signer un contrat. Le risque de s'exposer à des représailles américaines refroidit les ardeurs des petits comme des grands. L'élection de Donald Trump, qui pourrait remettre en cause cet accord nucléaire, a encore renforcé cette prudence. Soucieux de ne pas compromettre leurs affaires en cours aux États-Unis, des grandes entreprises françaises se donnent du temps et font surtout de la représentation à Téhéran pour le moment.
Et l'autre frein majeur, c'est le système bancaire iranien. Il est toujours coupé du reste du monde.
Oui, quand on est à Téhéran, eh bien, on ne peut toujours pas retirer de rial sur place dans un distributeur avec sa carte bleue. Ce manque de transparence entretient aussi la méfiance sur la solidité réelle des banques iraniennes. Il faut donc trouver des subterfuges pour effectuer des transactions financières avec ce pays. Les Italiens, qui sont très très actifs dans la République islamique, ont par exemple un centre bancaire dédié au marché iranien. Mais comme les Américains, il passe bien sûr aussi et toujours par Dubaï. Les différents politiques entre les Émirats et la République chiite n'empêchent pas les affaires. Dubaï demeure un point de passage obligé pour travailler en Iran, estime Jacques Hogard de l'agence EP, une agence qui accompagne les entreprises françaises dans leurs démarches. Il envisage d'ailleurs d'ouvrir un bureau dans l'Émirat où sont toujours répertoriées 4000 sociétés iraniennes.
Oui, parce que pour finir, malgré toutes ces difficultés, l'Iran reste un marché très convoité.
Incontournable, c'est la deuxième économie de la région après celle de son rival saoudien. C'est un immense marché de 80 millions de consommateurs. C'est un pays à la fois moderne, éduqué, avec une Silicon Valley à Téhéran par exemple, mais aussi des usines qui fonctionnent comme il y a 50 ans. Et puis, c'est une ouverture aussi vers les marchés voisins, le Pakistan, le Turkménistan et même l'Afghanistan dont vous parliez il y a peu.
Merci à vous, Dominique.